terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ikuala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 15h à 17h sur CIBL.
Je vous ai dit en début d'émission qu'on allait parler éducation. Voilà, je préfère mettre ça dans ce grand ensemble-là, éducation, parce que l'invité en face de moi va mieux nous détailler ça. Mélanie Valsin, bonjour. Merci, merci d'avoir, d'avoir bravé, je le dis, ce temps qui... Pas terrible qu'on a à Montréal aujourd'hui.
Il y a du soleil en studio.
Oh, merci. Ça voilà. J'aime ça. C'est pas souvent que les invités nous disent ça. Ça fait du bien. Oui, pour parler de littératie. Alors, on a déjà eu des discussions. On avait déjà eu une discussion là-dessus parce qu'avant, j'entendais toujours parler littératie financière. Mais en fait, c'est d'abord littératie. Avant de rajouter financière, littératie parce que l'organisme dont vous êtes la présidente, c'est Littératie Ensemble, qui est un organisme pan-canadien. Si je dis un organisme qui aide, contribue à apprendre à lire et à écrire, est-ce que cette définition vous va?
Oui, c'est très bien. Okay. Cyril, vous aviez bien...
J'ai fait mes devoirs.
Vous avez bien fait vos devoirs, en fait.
Non, c'est le pont, en fait, que le parallèle que je viens de faire, parce que je rajoute qu'à cette casquette-là, il faut que je rajoute que vous êtes membre du conseil d'administration du journal Le Devoir.
Oui.
Voilà, je dis comme ça en passant, parce que c'est toujours bien de voir, de parler des gens qui sont dans des postes à influence. C'est important ici pour nous. Donc, on revient à littératie ensemble.
Bien, c'est ça. Alors, moi, je navigue dans les mots entre littératie ensemble, devoir, tout ça est bien ficelé. Littératie ensemble, United for Literacy, en fait, Cyril, c'est un organisme qui est pan-canadien, vous l'avez dit, qui travaille littéralement de Terre-Neuve et Labrador à la Colombie-Britannique et à travers les trois territoires arctiques aussi. Ça fait très longtemps qu'on existe, depuis 1899, donc on célèbre... notre 125e anniversaire cette année.
Oui, cette année, c'est vieux. C'est vraiment un organisme bien, bien vieux. Là.
Oui, on fait vraiment partie du tissu social. Seulement au Québec, ici, depuis 1912, on offre des services. Là. Donc, notre mission, c'est vraiment d'apporter un soutien en littératie à des enfants, à des ados, à des individus, à des familles, puis à des communautés entières pour qu'on puisse enfin... améliorer les niveaux de littératie dans notre beau pays, niveaux de littératie qui sont très bas. C'est vrai, les gens ne sont pas au courant de cette crise. Moi, je pense qu'on est en crise, de cette crise au niveau des niveaux de littératie. Alors, on essaie depuis plus de 100 ans, nous, de faire une différence.
Donc, vous faites un travail, et j'utilise ces mots, ça c'est pour que les gens comprennent bien. Est-ce que vous faites un travail d'alphabétisation? C'est ça le mot?
En fait, on utilise les deux, alphabétisation et littératie. La littératie, ça réfère à tous les âges. Hein. On peut travailler au niveau de la littératie des enfants, des ados, des adultes, tandis que l'alphabétisation réfère plutôt à l'enseignement aux adultes. Donc, on fait un peu des deux. Puis on fait, bien sûr, de la francisation et de l'anglais langue seconde aussi, dépendamment des régions dans lesquelles nous œuvrons.
Tout à fait. J'ai lu, pour préparer cette entrevue, j'ai eu accès à quelques informations. Au Canada, un Canadien sur 5 ne sait ni lire ni écrire.
J'exagère. Je nuance un petit peu.
j'ai vu la face que vous avez faite là, j'ai dit OK, pense que j'exagère.
En fait, vous y êtes presque, puis c'est comme je vous parlais de la crise, c'est plutôt presque un adulte canadien.
Un adulte canadien
sur 5 qui n'a pas les compétences en lecture et en écriture nécessaires pour effectuer des tâches quotidiennes qui requièrent la lecture puis l'écriture. Lire un horaire d'autobus, consulter un horaire d'autobus, remplir un formulaire pour se chercher un emploi. Ou postuler pour un emploi. Donc, on ne parle pas nécessairement de gens qui ne savent pas du tout lire et écrire.
OK, on ne parle pas d'analphabète.
On parle plutôt de faibles compétences en littératie. Puis, la littératie, ça se mesure sur une échelle de 5 niveaux. Puis, tout le monde s'entend pour dire que on doit se situer au niveau 3 à peu près sur 5 là, pour être capable de bien se débrouiller dans la vie, dans notre société qui est si riche en technologie, notre société du savoir. Et puis donc, c'est 20 % des adultes canadiens se situent au niveau 0 et 1, donc même en dessous du niveau 1. Donc, on a... quand je parle de crise, Cyril, je pense à, par exemple, tout ce problème qu'on a avec la pénurie de main-d'œuvre. Mm-hmm. On a des gens ici qui pourraient entrer sur le marché du travail. On a un adulte sur cinq qui pourrait entrer sur le marché du travail, mais qui n'a pas les compétences nécessaires, en fait, pour...
C'est 20 % Mélanie Valsin, c'est qui? C'est 20 % c'est qui?
Bonne question. En fait, ces 20 % ce sont des gens qui sont potentiellement pris dans le cycle intergénérationnel, je me reprends, cycle intergénérationnel de la pauvreté, qui est souvent lié au même cycle intergénérationnel des faibles compétences en littératie. Il y a des gens qui, par exemple, peuvent avoir une déficience ou bien un trouble qui les empêche de performer à l'école, au travail, qui les empêche d'apprendre à lire et à écrire. On a des gens qui viennent d'arriver au Canada, bien sûr, qui n'ont pas nécessairement été scolarisés dans leur pays d'origine, puis qui donc arrivent ici avec une double difficulté. C'est pas seulement une difficulté pour apprendre vis-à-vis de l'apprentissage de la langue, mais aussi vis-à-vis apprendre à lire et à écrire dans quelle que soit la langue. Donc, puis il y a aussi, bien sûr, beaucoup de groupes qui ont été marginalisés historiquement, systémiquement même, systématiquement ou systémiquement depuis tant d'années. Donc, je parle, par exemple, au niveau des communautés des Premières Nations, certains autres groupes au sein de notre communauté, là, de nos communautés qui ont aussi été laissés pour compte par les institutions scolaires plus officielles.
Mm-hmm. Voilà. Alors, nous, on est au Québec. Je m'adresse à la présidente donc, de l'organisation pan-canadienne, mais vous comprendrez aisément que le Québec, oui, ça va plus m'intéresser, ça va plus intéresser celles et ceux qui nous écoutent. Nous nous situons où, nous, le Québec, par rapport au reste du Canada?
C'est vrai, on se situe à peu près dans la moyenne nationale. Okay. Les études qui évaluent les niveaux de compétences en littératie, ce sont des études internationales qui sont menées à travers les pays de l'OCDE. Puis, le Québec se situe habituellement dans la moyenne. Donc, on dit qu'on a à peu près un adulte canadien, donc un adulte québécois sur cinq. Puis là, j'ai pas la proportion en tête, mais si je parle des enfants, des niveaux de littératie des enfants, c'est vraiment désolant de savoir qu'à travers tout le Canada, on a 1 million d'enfants, pardonnez-moi, qui ne lisent pas au niveau de dans lequel ils devraient, qui ne performent pas au niveau auquel ils devraient performer là, au niveau de la lecture puis de l'écriture. Puis malheureusement, là, faudrait que je fasse la proportion avec le Québec, mais encore une fois, on a trop d'enfants ici, à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, mais dans les régions aussi, puis dans le Grand Nord.
Dans le Grand Nord, oui, puisqu'on parlait des Premières Nations et tout
voilà,
ça, oui.
Mm-hmm. Qui n'ont pas les compétences nécessaires. Donc, si déjà, en première année, en deuxième année, en troisième année, on éprouve des difficultés en lecture puis en écriture, puis qu'on continue à avancer, bien ensuite, on a vraiment de la difficulté à apprendre d'autres matières. Voilà d'où peut provenir les niveaux de décrochage scolaire qui sont en fait exacerbés maintenant par les impacts de la pandémie. Il faut penser à ça aussi.
Ça aussi, oui. C'est-à-dire que si j'enlève, et même pourquoi est-ce que j'enlèverais, c'est si je mets un tout petit peu à l'écart les Premières Nations, il est toujours très surprenant d'apprendre qu'un pays comme le Canada, quand même membre du G7, membre bien classé dans les pays de l'OCDE, a une proportion de 20% de sa population adulte qui, alors pour reprendre votre expression, n'a pas les compétences pour lire ou écrire. Ça fait toujours, excusez l'expression triviale là, mais ça fait toujours très bizarre d'entendre ça.
En effet, puis vous n'êtes pas le seul à penser comme ça, Cyril, je le pense aussi. Dernièrement, on a mené un sondage, on a embauché une firme de sondage. Qui a effectué un sondage auprès des Canadiens pour voir qu'est-ce qu'en pensait monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce que monsieur, madame, tout le monde pense de la littératie et de son importance. Et puis, Cyril, on a été agréablement surpris de voir que 92 % des Canadiens qui ont répondu au sondage. Donc, 92 % des Canadiens disent qu'ils comprennent, ils savent, ils sont d'accord avec le fait que la littératie, c'est la clé pour avoir, c'est une des clés très importantes, en fait, pour assurer de bons standards de vie, pour avoir une bonne qualité de vie. On le sait, hein, les niveaux de littératie, c'est pas seulement lié à la réussite scolaire ou au travail, c'est lié à une bonne santé, c'est lié à la réduction de la pauvreté, c'est lié à l'emploi. C'est même lié, en fait, à l'engagement civil. C'est prouvé, là, plusieurs études l'ont prouvé, plus les gens ont des niveaux de littératie élevés, plus ils vont s'impliquer au sein de leur communauté, comme dans le bénévolat, dans d'autres sphères aussi, dans la sphère politique. Plus les gens ont des niveaux de littératie élevés, plus ils sont impliqués dans tout ce qui est action démocratique, le vote et tout. Comment est-ce qu'on fait pour déchiffrer un bulletin de vote si on a des difficultés
Oui, donc ça a un réel impact dans toutes les sphères de la société.
Exactement.
Maintenant, je pose vraiment volontairement la question comme ça. Je veux dire, je ne sais... Alors, vous m'avez dit, non, il ne s'agit pas de ne pas savoir lire, mais disons qu'il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à bien comprendre. Mais en quoi est-ce que le fait que je ne sache pas nécessairement lire ou écrire peut avoir un impact sur ma santé?
Je ne sais pas si vous avez déjà dû, j'espère que non, j'espère que vous n'avez jamais dû naviguer notre système de santé. Ce n'est pas une critique du système de santé, c'est juste que c'est compliqué, c'est grand terme. Puis moi-même, ayant accompagné mon papa, par exemple, durant sa maladie, je suis allée à l'université et tout. Il y a des fois que je ne comprenais pas trop quelles étaient les prochaines étapes ou les termes dont on nous parlait. Alors, encore une fois, imaginez si vous devez déchiffrer une posologie qui est assez compliquée à suivre.
Plus banal, hein?
Mais oui.
Ouais, tout à fait.
Imaginez les conséquences si on n'a pas bien saisi les informations d'une posologie. Les informations préopératoires, on y perd notre latin. Alors, encore une fois, avec de faibles compétences, quand les mots forment un peu un casse-tête sur une page, c'est difficile de pouvoir saisir tout ce qui se passe autour de soi et puis donc de naviguer le système de santé ou de se maintenir même en bonne santé si on ne peut pas vraiment déchiffrer les informations qui sont divulguées, par exemple, dans les journaux par la santé publique quand il y a des crises comme la crise de la COVID, qu'on vient de vivre.
Alors, de manière concrète, Littératie Ensemble, vous travaillez comment? Vous accompagnez ces gens comment? Pour qu'on comprenne un peu. Parce que vous avez fait des études avec cette firme-là, vous avez les résultats aujourd'hui, vous avez une photo, je fais un anglicisme là, de la situation, mais vous, concrètement, comment vous travaillez?
Oui, donc nous, je vais prendre l'exemple du Québec. Alors, au Québec, depuis 1992, on est ici depuis 1912, mais de façon organisée et régulière depuis 1992. Donc, on recrute des bénévoles sur les campus universitaires, donc littéralement à l'Université Laval, à l'Université de Sherbrooke, dans les quatre universités ici à Montréal aussi. On travaille dans les deux langues à Montréal.
Oui, bien sûr.
Puis donc, on recrute des étudiants universitaires, on les forme, et puis ces individus-là vont ensuite offrir des activités d'alphabétisation ou en fait des services d'alphabétisation et de littératie au sein de la communauté. On forme des partenariats avec d'autres groupes. Donc, nous, on dit toujours qu'on n'a pas de... notre salle de classe, c'est la communauté. Oui, j'ai des bureaux ici à Montréal, mais tout ce qui se fait en tutorat, nos cercles de lecture, tout le soutien scolaire qu'on offre, il se fait dans la communauté. Donc, mes bénévoles formés vont, par exemple, aller travailler chez notre partenaire qui s'appelle Projet Villeray dans l'Est, dans le quartier Villeray, ou à Tyndale St. George Community Center dans la petite Bourgogne. Okay. Donc, on signe des ententes avec des organismes qui rejoignent déjà les populations qu'on veut servir. Et puis nous, on amène le volet alphabétisation, littératie, francisation à travers nos bénévoles. On a aussi, bien sûr, des employés qui animent des activités puis qui apportent un soutien à des familles, à des individus. Mais habituellement, dans le sud ici, nos activités sont offertes par des bénévoles. Et puis, on travaille aussi beaucoup avec les communautés du Nunavik. Là, ce sont des salariés qui, par exemple, viennent offrir un soutien en mathématiques dans les écoles secondaires. On offre beaucoup de camps d'été aussi qui misent sur le développement du goût de la lecture et la découverte de tout ce qui est littérature jeunesse pour les enfants. Donc, ces camps-là se déroulent souvent aussi dans la langue maternelle, par exemple au Nunavik, en Inuktitut. Donc, on embauche des jeunes des communautés, on les forme, on les soutient, puis eux mettent sur pied un camp de littératie durant l'été qui répond aux traditions, qui reflète les traditions, la langue et la culture locale.
Alors, pour parler des Néo-Québécois et surtout noirs qui viennent ici, et même peut-être pas que les Noirs, les gens arrivent ici, parlent, je sais pas moi, parlent espagnol, parlent lingala, et à qui on dit, bah, pour mieux vous mouvoir dans la société, bah, il faut parler en français. Donc, je vais aller suivre un cours de francisation, bah, ça, je vais dire, bah, je vais le faire naturellement. Mais quand on a 40 ans, 45 ans, et qu'on n'a pas, je reprends votre terme, les compétences pour bien lire ou écrire, il y a comme une espèce de gêne à aller s'asseoir pour voilà, apprendre ou réapprendre à écrire ou apprendre à parler. Comment vous faites pour attirer ce monde-là, sans qu'ils sentent, qu'ils ne se sentent, bah, ils sont déjà plus ou moins à l'écart de la société parce qu'ils savent ni lire ni écrire, puis là ils arrivent et puis on va les regarder, cet adulte-là qui sait ni lire. Comment vous faites pour les attirer? Parce que c'est différent d'aller à un cours de francisation parce qu'on ne parle pas la langue.
Bien sûr. Puis aussi, parlons-en un peu des cours de francisation. Mm-hmm. Les cours de francisation, c'est fantastique qu'on puisse les offrir, que le gouvernement puisse les offrir aux nouveaux arrivants, mais ça ne correspond pas à tous et toutes. Donc, je pense à une maman qui parlerait ni français ni anglais, qui arrive ici, qui doit demeurer au foyer, rester à la maison avec ses jeunes enfants pendant que le papa, finalement, a pu trouver un emploi puis commencer à travailler. Cette femme-là, elle n'aura pas nécessairement... C'est pas juste le il y a un truc d'accès aussi. Elle n'aurait peut-être pas accès aux cours qui sont offerts par le gouvernement parce qu'elle a d'autres obligations familiales. Mmh. Puis il peut avoir de la peur aussi, tu sais, ça dépend de la situation dans laquelle les gens.
Sur le plan administratif, oui. Mmh.
Comment on fait pour rejoindre ces gens-là? Encore une fois, on signe des ententes avec des groupes qui sont déjà au service des nouveaux arrivants qui viennent de, par exemple, faire une demande à titre de réfugiés, ou des gens qui sont dans des situations plus précaires, comme justement le projet Villeray dans l'Est. Nous, on ne commence pas à demander « Est-ce que vous êtes citoyen canadien? Est-ce que vous avez fait votre demande? » Non. Vous avez besoin d'être capable d'évoluer, surtout pendant que vous êtes ici dans une situation peut-être un peu précaire avant d'avoir un statut plus régulier. Bien, nous, on est là, j'appelle ça de la francisation de première ligne. Okay. Nos bénévoles puis nos employés vont en fait offrir ces services-là de francisation chez des groupes qui justement offrent déjà des conseils légaux à ces personnes tu sais, je pense à justement, mais j'ai nommé Projet Villeray dans l'Est, mais c'est ça, plusieurs partenaires, les YMCA aussi, qui offrent des services aux nouveaux arrivants. Et nous, on vient encore une fois faire de l'alphabétisation ou de la francisation de première ligne. Mm-hmm. Puis ça enlève justement tout ce stigma-là parce qu'on est capable d'arriver en disant vous n'avez pas à venir vers nous, on vient vers vous, puis on vous offre un service là, dont vous avez besoin, mais sans... Puis c'est ça, l'autre chose, c'est qu'on parle beaucoup d'échanges. Nous, notre philosophie, c'est une philosophie qui est vraiment basée sur le respect et l'échange mutuel entre le tuteur ou les employés et les apprenants. Donc, tout le monde le dit toujours, nos bénévoles, nos salariés nous disent toujours « j'ai appris ». 4 fois plus, je crois, à travers cette relation-là de tutorat, par exemple, en francisation, que la personne que je soutenais.
Tout à fait.
Parce qu'on essaie vraiment de faire un échange.
Un partage d'expérience et tout. C'est payant?
Tout est gratuit.
OK.
Oui. Tous nos services sont gratuits. Alors, si jamais il y a des gens qui sont intéressés à s'impliquer en tant que bénévole, vous pouvez aller consulter notre site web littératieensemble.ca. Il y a des informations sur le bénévolat. Et si vous avez besoin de nos services, vous pouvez aussi nous donner un coup de fil. Il y a un numéro 800 sur le site et puis ça va nous faire plaisir de voir comment on pourrait vous soutenir.
En ce moment, question que j'ai posée aussi tantôt, vous touchez à peu près combien de personnes en ce moment?
Je
reste encore toujours dans dans mon Montréal, hein, dans mon Québec, mon Montréal. Vous touchez à peu près combien de personnes?
Oui, à travers le Canada, c'est environ, on a rejoint 35 000 personnes l'année dernière, donc l'année qui vient de se terminer. Donc, je dirais au Québec, là, j'aurais dû apporter mes chiffres avec moi, mais ça représente à peu près 20 % de nos opérations. Là, j'essaie de faire le calcul rapidement.
35 020
%. Ouais, voilà.
On va couper en 2,50. Bon, allez, Cyril, allez, calcul mental, vas-y, là, ça fait,
merci,
on descend
Cyril,
déjà.
Là,
on est déjà à 15 000, quelque chose. Bref, vous n'êtes pas loin de 10 000, grosso modo. Non, un peu moins que ça, quand même, que vous touchez à.
Oui, je dirais, puis là-dessus, environ 1 500 à 2 000 adultes. Puis ensuite, la balance serait des enfants.
Tout à fait. Et la proportion adulte-enfant?
C'est ça, environ, je dirais que 20 % quand je suis dans les 20 % les 20 % de nos opérations rejoignent des adultes.
Et donc là, en ce moment, surtout après l'étude nationale que vous avez faite, c'est sûr que la demande, elle est là. La société se rend compte que c'est un besoin, parce que d'avoir une proportion de gens comme ça mise de côté, parce qu'elle ne peut ni lire correctement ou écrire correctement. Il y a donc des besoins. Les bénévoles, là, vous en avez besoin.
Oui, ben, on a toujours besoin de bénévoles.
Oui. Il y a des prérequis quand même, hein, pour
En fait,
minimum.
On passe tout le monde en entrevue, bien sûr, puis on trie tout le monde sur le... Les gens qui viennent vers nous sont des gens bien intentionnés.
Déjà
alors, habituellement,
bien intentionnés, tout à fait.
Habituellement, il n'y a pas de problème, mais quand même, tout le monde doit passer une entrevue, remplir un formulaire de mise en candidature. On fait des vérifications des antécédents judiciaires. C'est bien important pour protéger les personnes avec qui on travaille, qui peuvent être vulnérables. Parce que parfois, on est dans des centres de détention aussi. On peut être, en tout cas. Donc, c'est ça. Alors, cette année, je crois qu'on a quand même eu 1 600 personnes qui se sont impliquées à travers la structure pancanadienne. Au Québec, ça devait être environ 250 bénévoles, peut-être 300 même, 300 bénévoles des différentes régions, là, Québec, Sherbrooke et Montréal, qui se sont joints à nous. Puis sans ces bénévoles-là, on pourrait jamais continuer d'exister. En fait, Cyril, toute notre action repose sur le bénévolat parce qu'à l'origine, notre fondateur, je parle, il y a 25 ans, recrutait...
125 ans, oui, c'est ça.
Voici, il recrutait des étudiants universitaires. Ça a commencé dans le sud de l'Ontario, puis les envoyait travailler dans les camps de bûcherons, sur les chemins de fer, dans les mines, avec les travailleurs durant la journée. Mm-hmm. Puis le soir, ils apprenaient la lecture et l'écriture à leurs collègues de travail. C'est comme ça qu'on a commencé. Alors, toute cette tradition de recruter des étudiants universitaires, en fait, elle se poursuit depuis, ça date d'il y a 125 ans. Là.
Si Littératie Ensemble existe depuis 125 ans, continue à fournir ses services, c'est parce qu'il y a une demande, ça c'est clair. Il y a une demande, il faut répondre à ça. Et puis, moi je suis content de découvrir que je me fie à l'étude qui a été faite. Bah, la société est consciente quand même que oui, ça a un impact sur le reste de la société, donc sur peut-être ceux qui sont mieux outillés comme nous. Mais ça a quand même un impact de voir d'autres qui le sont moins vivre comme ça. C'est sûr que ça a un impact et il faut tous y remédier, quoi, d'une façon ou d'une autre.
Voilà. Puis vraiment, tout à l'heure, on parlait de santé, de réduction de la pauvreté. Il y a aussi plein d'études qui ont été mises de l'avant où on démontrait que d'augmenter les niveaux de littératie dans un pays, ça a un gros, gros impact sur la productivité, sur le produit, sur le PIB, sur les niveaux d'absentéisme en milieu de travail aussi. Quand on a des employés qui se sentent bien outillés, ben il y a santé et sécurité au travail, on augmente, on améliore aussi, c'est ça, là, comme je disais, la productivité, on diminue le taux d'absentéisme. Alors, c'est pas seulement, moi, je ne veux pas seulement parler de productivité. Tu sais, pour moi, là, la littératie, c'est un droit de la personne d'abord, c'est un droit humain. Puis c'est aussi un outil qui ouvre des portes sur plein de choses. Mais si on veut s'arrêter un peu à l'aspect économique, il y a de grands bénéfices pour tous et toutes, en fait, à travers le pays.
OK. Puis le Québec. Littératieensemble.ca, allez sur le site internet, vous allez déjà voir cette étude-là, puis voir tous les chiffres qui ont été mis en avant. Puis, comme a dit Mélanie, pour ceux qui sont intéressés, il y a comment ça s'appelle, l'icône bénévolat, ou ceux qui ont besoin des services. Là, vous pouvez vous renseigner. Merci Mélanie Valsin d'être passée nous voir.
Fantastique, merci, tout le plaisir était pour moi.
Mon nom est Cyril Equala.